RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, le 23 janvier dernier, le Venezuela a fermé sa frontière de plus de 2200 km avec la Colombie. Mais aujourd'hui, produits alimentaires, matières premières ou encore contrebande d'essence continuent à passer d'un pays à l'autre à travers les passages clandestins. Car les échanges, légaux ou non, entre les deux pays sont vitaux pour les villes frontalières, notamment dans l'état de Táchira, côté vénézuélien, qui manque de tout. Illustration dans ce petit hôtel situé à quelques centaines de mètres de la ligne de séparation entre les deux pays. Venezuela, vivre à la frontière colombienne. Grand reportage, signé Marie Normand.
Adias. Adias.
Si vous voulez bien m'accompagner, ici vous pouvez déjà voir une chambre dont la construction est déjà un peu plus avancée. Elle aura sa salle de bain. Elle est assez grande cette chambre, oui, en fait il ne lui manque plus grand chose. Et là, de ce côté-ci, on a une autre chambre toujours en construction. Il n'y a plus ou moins que le squelette de la chambre.
Anderson Vivas, le réceptionniste de ce petit hôtel de San Antonio, se tient à seulement un mètre d'un trou béant. Il manque encore à cette chambre une partie du plancher et tout un pan du mur extérieur. En fait, la moitié du premier étage de l'établissement est à l'air libre, en travaux et encore loin d'être terminé. Et en attendant, il vaut mieux regarder où l'on met les pieds quand on sort de sa chambre.
C'est un peu dangereux, oui. Il y a 6 chambres qui sont toujours en construction depuis environ 2 ans. C'est à cause de la situation dans laquelle se trouve le pays et au manque de matériaux de construction, surtout au manque de ciment.
Un ouvrier dort sur un lit de camp à côté de sa radio, chômage technique dans l'attente de ce précieux ciment.
Les cimenteries locales appartenaient à un consortium mexicain qui a été exproprié. C'était il y a environ 8 ou 10 ans sous le président Chavez. Depuis, les entreprises ont commencé à être gérées en partie par le gouvernement et donc cela est devenu plus difficile de se procurer ce matériel de construction. Pour le transport, c'est aussi devenu plus difficile. Les pénuries d'essence ont commencé, les pénuries de pièces détachées. On trouve difficilement du caoutchouc, des huiles. Et puis il y a un autre facteur qui a gêné l'avancement de ces travaux dans notre hôtel, c'est que la main-d'œuvre a aussi commencé à manquer. Parce que les gens ont commencé à chercher, à trouver un autre moyen de subsistance. Les ouvriers d'ici ont commencé à migrer en Colombie. Donc c'est devenu difficile, on a même dû arrêter totalement les travaux pendant 5 ou 6 mois. Ils n'ont repris qu'au mois de novembre.
Et donc le ciment, il vient d'où aujourd'hui ?
Il vient de Colombie. C'est plus accessible là-bas. Ici, c'est vraiment difficile de s'en procurer. On peut juste trouver un ou deux petits sacs. En fait, quasiment tout le matériel que nous utilisons vient de là-bas. Tout ce qui est tuyaux, câbles électriques, les interrupteurs, viennent de Colombie.
Et donc, ça représente une difficulté pour vous, le fait que la frontière soit fermée ?
Oui, bien sûr. En ce moment, on dépend d'eux.
Une dépendance qui s'étend aux produits du quotidien et aux équipements de l'hôtel.
Tout ce qui est savon, papier toilette, ici, le papier toilette, on n'en trouve pas. Ça ne devrait pas être comme ça. Tu devrais pouvoir rentrer dans n'importe quel supermarché et dire « je veux tant de rouleaux ». Mais tu y vas, il n'y en a pas. Tout vient de Colombie. Tout ce qu'on utilise dans cet hôtel vient de l'autre côté. Moi, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la pharmacie. Je travaillais pour une chaîne nationale de pharmacie. Et il y a 3 ou 4 ans environ, la franchise dans laquelle je travaillais a fermé à cause du manque de médicaments. Donc j'ai dû trouver d'autres opportunités de travail, ce qui se présentait. Ici au moins, je suis nourri, logé. Avec mon salaire, ce serait difficile de me loger et de me nourrir. Donc ici au moins, j'ai cet avantage.
À 42 ans, Jackson Malavé a lui aussi dû changer d'activité. Il vit dans cet hôtel et reçoit ses clients à la réception. Jackson est passeur. Son quotidien, faire traverser clandestinement la frontière entre le Venezuela et la Colombie à tous ceux qui souhaitent quitter le pays. Une activité rentable, notamment lorsque les postes frontières officiels sont fermés, comme aujourd'hui.
Moi, personnellement, je fais passer 4, 5, 7 personnes par semaine. La majorité des gens préfèrent se débrouiller seuls. Et après, on ne sait pas ce qu'ils deviennent.
Devant lui, casquette vissée sur la tête, Darwin Barreto est en train de se préparer. Ce mécanicien de 29 ans a déjà fait 4 jours de route pour rejoindre cette ville frontière, San Antonio.
C'est là que je dois faire tamponner la sortie et là l'entrée.
Oui, c'est là.
C'est la première fois que Darwin sort du pays. Il dissimule quelques billets dans ses chaussettes.
J'ai entendu dire que là-bas, des gens nous contrôlaient et qu'ils nous volaient nos affaires.
La peur des groupes criminels qui contrôlent les passages clandestins, la peur aussi de ne pas pouvoir travailler légalement au Pérou, sa destination. Il a absolument besoin d'un extrait de casier judiciaire et ça aussi, le passeur va s'en occuper pour lui, en échange de quelques billets. Comme sa femme, partie quelques mois avant lui, Darwin espère pouvoir mieux gagner sa vie au Pérou. Le couple laisse derrière lui une enfant de 2 ans, restée avec une grand-mère.
Ici, ce qu'on gagne ne suffit pas pour louer un logement, par exemple. Pourquoi le Pérou? Parce que je crois que c'est la meilleure économie d'Amérique latine. Le plan, c'est de passer en Colombie, puis d'acheter un billet de bus pour aller jusqu'au Pérou. Je suis mécanicien, donc j'aimerais trouver du travail dans un garage. Mais je verrai bien ce que je trouverai. N'importe quel travail me fera gagner plus qu'ici.
Darwin a été approché par le passeur Jackson sur un groupe Facebook dédié aux offres d'emploi de la région. Pour ce dernier, rien d'illégal dans son activité. Il se considère plutôt comme un agent de voyage.
Moi, je m'occupe de faire les démarches pour que tout se passe bien sur le chemin. Je ne fais pas ça juste pour l'argent. Moi, je le vois comme une manière de faire du social, aider et donner la main à ceux qui souhaitent quitter le pays. Et lui, je vais donner le meilleur de moi-même pour qu'il arrive sain et sauf de l'autre côté et jusqu'à sa destination finale, à savoir le Pérou. Je n'ai pas le choix que de faire un peu de tout. Tous ceux qui se présentent. Mais je ne fais pas de contrebande. Bien sûr, pas du tout, je n'y touche pas. Et puis, je ne peux pas te dire que ça me rende riche, juste de quoi subsister comme tout le monde ici au Venezuela.
Dans la cuisine de l'hôtel, la compagne de Jackson prépare des fritures pour le déjeuner.
Ça, c'est de la banane plantain. En Colombie, ils appellent ça maduro, un maduro frit. Je m'appelle Tatiana Guillem, j'ai une licence d'enseignante. Ça fait 5 mois que je suis ici en raison de la situation que vit notre pays. J'ai laissé 2 de mes enfants là-bas avec leur père. Et je suis ici en train de chercher des solutions pour sortir de la misère. L'une de mes amies travaillait ici comme femme de ménage dans les toilettes de la gare routière jusqu'en décembre l'année dernière. Alors quand elle est partie, j'ai récupéré son poste. Je travaille au petit matin. Mon salaire est le triple de ce que me donnait le ministère de l'Éducation. Le triple ! Jamais j'avais eu autant d'argent entre les mains en liquide.
Le reste du temps, Tatiana aide Jackson à faire passer ses clients côté colombien. Comme lui, elle est originaire de Ciudad Bolívar, à l'est du pays. C'est là-bas que le couple a fait connaissance l'année dernière, dans un hôpital où les médicaments et le personnel manquaient.
Mon père était malade, le sien aussi. Il m'a invité à boire un café et quand on est revenu à la chambre, son père était mort. Et à 21h, c'est le mien qui est mort. Donc voilà, tout ça nous a rapprochés, on a commencé à mieux se connaître, à sortir ensemble. Et jusqu'à ce jour, nous sommes en couple.
C'est en couple qu'ils ont ensuite rejoint la frontière à la recherche d'argent facile. Tatiana l'avoue, son intérêt pour la politique est assez récent.
J'ai voté pour Maduro, mais c'était comme une obligation pour garder notre emploi. Mais je le regrette, ça c'est sûr.
C'est moi qui l'ai fait changer. Fini le chavisme pour elle, pourvu qu'il y ait d'autres Vénézuéliens qui regrettent leur vote. Mais pour l'instant, non, ils se soumettent à la misère, à cette situation.
Pourvu que ça change, il faut que ça change. Que le Venezuela soit comme avant, qu'on puisse acheter tout ce qu'on veut dans les supermarchés, qu'on ne soit plus obligé de traverser la frontière pour faire nos achats. Bon, allez, goûtez-moi une de ces bananes frites. Ah oui, c'est chaud.
Son compagnon ouvre le placard de la cuisine. Là encore, tout ou presque vient de Colombie.
La salsa, la mayonnaise.
La sauce, la mayonnaise, l'huile, ça c'est colombien. Tout est colombien. On n'achète rien au Venezuela parce que c'est beaucoup trop cher. Cette mayonnaise, elle coûte 2700 pesos en Colombie et une fois qu'elle arrive au Venezuela, elle coûte 5000 pesos.
Beaucoup de Vénézuéliens ont besoin de traverser cette frontière au quotidien pour faire leurs courses, mais aussi pour aller travailler, étudier ou encore se soigner. La fermeture des ponts qui relient les deux pays a donc suscité des tensions très vives entre la garde nationale bolivarienne et ses habitants, comme par exemple à Ureña, à quelques kilomètres au nord de San Antonio.
Je les ai suppliés. On leur a demandé de nous laisser passer, mais ils ne nous ont pas laissé passer.
Nous travaillons à Cúcuta côté colombien parce qu'il n'y a pas d'emploi stable côté vénézuélien. On doit y aller pour toucher un salaire et travailler là-bas une demi-journée, comme d'habitude.
Aujourd'hui, ces personnes se résignent donc à payer des passeurs et les groupes criminels qui contrôlent les passages clandestins. Sur les routes proches du pont Simón Bolívar, le poste frontière de San Antonio, se forment de petits groupes, des valises ou des bidons d'essence à la main. Pablo Rodriguez est journaliste, spécialiste des faits divers dans un quotidien régional.
Regarde, tu peux voir là tous ces gens avec leurs valises. Ils cherchent à quitter le pays. Comme la frontière est fermée, ils doivent passer par les trots de chasse, les passages clandestins. Là, c'est une de ces trots de chasse qu'on appelle la caracola.
Ces trots de chasse, il y en a une quarantaine dans la zone.
Regarde, tu vois les types là, à leur poste, avec leur talkie-walkie? Tu les vois? C'est comme ça qu'ils communiquent, pour donner l'alerte, si besoin, aux passeurs. Ce sont eux qui contrôlent les trots de chasse. La frontière, elle est juste là, derrière ces arbres. Le passage pour une personne vaut 20 000 pesos. 6 ou 7 dollars environ au taux de change actuel. Regarde-les, celui qui marche devant ce groupe là, avec son écharpe à la main. C'est lui le passeur.
Torse nu, l'homme en question va guider ses clients jusqu'au centre-ville. En tout, la traversée du Rio Táchira, quasiment à sec au mois de février, a pris moins de 10 minutes.
Ça paraît facile comme ça, mais il faut se souvenir que ceux qui contrôlent ces passages clandestins sont des groupes armés, des guérillas, des paramilitaires. Ici se regroupent toutes les formes de bandes criminelles. Et ce ne sont pas juste des gens qui passent par ces trots de chasse. Il y passe aussi la drogue, le trafic d'êtres humains, le caoutchouc, l'essence. Tout ce qui a une valeur monétaire dans cette partie du pays passe par les trots de chasse.
Ironiquement, nous avons à peu près les tribunaux ici, de justice, et tout.
L'ironie, c'est qu'à quelques mètres, on a le tribunal de justice. La garde nationale, l'armée, ils prennent un pourcentage pour chaque personne qui passe. Et si le passeur prend 20 000 pesos, il doit donner au moins 5 000 aux groupes armés et 5 000 à la garde nationale ou à l'armée.
A los grupos irregulares y 5 000 al ejército o a la guardia.
Recuerda, solo 1000 pesos te cuesta el vaso. Helados cremosos de vaso por solo 1000 pesos. ¡Qué rico helado!
Ici, le long de la frontière et même plus largement dans tout l'état de Táchira au Venezuela, les transactions se font en pesos, la monnaie colombienne. C'est illégal, mais avec l'inflation, payer en bolivar, la monnaie vénézuélienne, est devenu trop complexe. Les coupures d'électricité empêchent aussi le paiement par carte bleue. Si le Venezuela est aussi dépendant de la Colombie aujourd'hui, c'est que localement, la production s'est effondrée, comme l'explique Pietro Cienicola, le vice-président de Fedecamaras Táchira.
Des quelques 40 000 commerces que nous avions en 2012, il n'en reste que 15 000 environ. Cela a bien sûr un impact sur l'emploi. On parle là juste de l'activité formelle.
L'économie informelle, explique-t-il, représente environ 50% de l'activité de l'État de Táchira. Elle a explosé depuis les nationalisations d'entreprises par l'ancien président Chavez, les restrictions imposées au secteur privé et la dégradation des services publics.
Un des gros problèmes qui gêne l'activité économique au Venezuela, ce sont les services publics, particulièrement ceux qui touchent à l'électricité, aux télécommunications. Ce sont des entreprises d'État dans lesquelles l'État n'a pas investi. Cela a provoqué la détérioration du réseau électrique et des télécommunications. Comment ça nous affecte? Eh bien, les boucheries, par exemple, elles doivent congeler certains produits. Quand quand l'électricité se coupe et repart, les équipements sont endommagés. Et sur le plan des télécommunications, Internet est lent, ce qui complique les transactions électroniques.
Même avant les pannes électriques géantes qui touchent le Venezuela depuis le mois de mars, les coupures de courant étaient quotidiennes dans l'état de Táchira et elles le sont toujours. Les stations-service, mal alimentées, distribuent aussi l'essence au compte-gouttes. C'est le cas même à San Cristobal, la capitale de l'État.
Et le thème du combustible est extrêmement grave.
Le problème lié à l'essence est très grave. L'essence ne vaut rien, mais quand tu réalises la quantité d'heures nécessaires pour faire le plein, en fait, tu réalises qu'elle a un prix.
Dans toute la ville, des véhicules à perte de vue. De longues files d'attente qui serpentent le long des artères de San Cristobal. Chaque jour, des centaines de conducteurs attendent ainsi pour faire le plein.
Tu attends depuis combien de temps ?
3 heures.
En ce moment, la moyenne, c'est 3 voire 4 jours d'attente pour atteindre une pompe à essence. Certains bénéficient de coupe-file, comme les véhicules de pompiers ou de police, mais pas les médecins, à l'image de ceux de l'hôpital central de San Cristobal. Ils sont plusieurs dizaines réunis en assemblée ce jour-là pour interpeller le directeur de l'établissement.
Tu as beau vouloir sauver toutes les vies que tu veux, il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence, c'est la vérité.
Ces médecins exigent que le directeur de l'hôpital fasse pression sur les autorités pour leur permettre d'obtenir de l'essence plus facilement et ainsi assurer leur service. Le docteur Franz Arias est chirurgien orthopédiste et traumatologue.
On arrive à la pompe pour acheter de l'essence et là non, ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent depuis 3 ou 4 jours. On leur demande une faveur parce qu'on a besoin de cette essence pour aller travailler. Mais ils nous répondent non, nous on attend depuis 3 ou 4 jours. Et nous, on ne peut pas attendre aussi longtemps tout en assurant les urgences à l'hôpital. Il n'y a pas non plus de transport public, il n'y a rien. Rien ! Il n'y a pas de pièces détachées pour réparer nos voitures, ou alors elles sont très chères et notre salaire ne suffit pas.
En raison de l'hyperinflation, le salaire de ce chirurgien avoisine les 10 dollars par mois. Près de 23 000 praticiens ont choisi de quitter le Venezuela ces 3 dernières années, selon la Fédération des médecins vénézuéliens. Ce qui pose aussi des problèmes au quotidien pour ceux qui restent, explique Franz Arias.
Les chirurgies sont annulées parce qu'il n'y a pas assez de personnel, pas assez d'infirmières. Ici, ceux qui continuent à travailler le font par amour pour cet hôpital, parce que c'est là que nous avons été formés. Et on veut que l'hôpital aille de l'avant, surtout pour les gens, parce que l'établissement est destiné avant tout aux personnes les plus défavorisées qui vivent loin de la ville. Mais le gouvernement nous en empêche.
Le gouvernement vénézuélien, lui, accuse les contrebandiers qui vendent l'essence illégalement en Colombie d'être responsables de ces pénuries. L'opposition pointe du doigt l'état de délabrement avancé de l'ensemble des infrastructures et des services publics. Face à cette situation économique et sociale qui n'en finit plus de se dégrader, Pietro Cenicola, le vice-président de Fedecámaras Táchira, veut rester optimiste.
Como positivo es que, bueno, Venezuela en realidad es un país en donde está todo por hacer.
Le point positif, c'est que le Venezuela est un pays où tout reste à faire. Avec un système de gouvernement adéquat, ce pourrait être le pays en mesure d'offrir le plus d'opportunités aux investisseurs étrangers, comme aux investisseurs vénézuéliens, bien sûr. Donc tout dépend de notre capacité à accéder à un système démocratique qui nous permette de construire une économie ouverte. Et de toute évidence, nous avons aussi un capital humain, une population bien formée. De fait, beaucoup des jeunes qui ont quitté le pays ont pu accéder au marché du travail chilien, argentin et autres grâce à cette formation. Donc je pense que tout n'est pas à jeter dans les réalisations de la République bolivarienne. Je crois qu'il y a eu des investissements dans le système éducatif pour construire de bonnes universités dans lesquelles sont formés de nombreux professionnels qui réellement sont très compétents.
De alguna manera invirtió para tener buenas universidades y allí se formaron muchos profesionales que realmente son muy competentes.
Venezuela, vivre à la frontière colombienne, un grand reportage de Marie Normand, réalisation Pierre Chaffanjon.